voici les titres de votre journal.
Situation inchangée à la Méridionale au sixième jour de grève des marins CGT STC. Ces derniers ont bloqué un nouveau dépôt de leur actionnaire Steph à Vitrolles. Mais l'espoir demeure car des discussions se poursuivent entre direction de la Méridionale et de la Corsicaline. Nous ferons le point dans cette édition, évidemment. Au procès d'Axel Bouchard, devant les assises de Corse du Sud, on a entamé ce matin le cycle des plaidoiries et du réquisitoire. Le verdict est attendu pour la fin de soirée. Notre invité à la fin de cette édition, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Il a terminé sa visite dans l'île ce matin avec deux exploitations de Corse du Sud. Et toujours le même appel, vous l'entendrez, à écrire une nouvelle page entre les agriculteurs corses et le ministère.
L'édition de la mi-journée sur RCFM, Jean Prouned, bonjour.
Bonjour. Sixième jour de grève donc pour les marins de la Méridionale et toujours pas d'issue en vue. Ce mercredi encore, le Piana et le Calisté sont immobilisés à Marseille et le Paliaorba à Propriano. Bloqué également le port de Marseille et avec lui depuis vendredi dernier, trois navires de l'autre compagnie, la Corsicalinea. À ces blocages s'ajoutent les actions quotidiennes des grévistes qui visent désormais le groupe Steph, actionnaire majoritaire de la Méridionale. Après le blocage partiel hier de l'un des dépôts de la Steph à Marseille, les grévistes bloquent depuis ce matin 6h tous les camions d'un autre dépôt à Vitrolles. Dans un communiqué, le STC lui interpelle à nouveau le groupe Steph en sa qualité de donneur d'ordre. Il parle d'erreurs ou de fautes volontaires de la direction de la Méridionale dans ce dossier de DSP pour se désengager progressivement, annonce le STC, de la desserte de la Corse, quitte à mettre 500 emplois en danger. Parallèlement à ces actions de terrain des grévistes, des discussions, on le sait, ont été entamées hier entre les directions des deux compagnies, Méridionale et Corsicaline. Discussion qui serait pour l'instant sans être rompue au point mort. L'étau de la justice semble se resserrer sur Axel Bouchard. Après 3 jours de procès, les débats se sont conclus hier devant les assises de la Corse du Sud. Place aux plaidoiries et au verdict attendu pour ce soir. Hier, les dépositions des experts, un psychiatre et criminologue, le professeur Coutenceau, et une psychologue, Marie-Rose Poinsard, ont peut-être mis un terme au doute qui profitait encore à l'accusé. Le discernement de l'accusé, ont déclaré notamment ces deux experts, n'était pas altéré lorsqu'il a commis son geste, à savoir tuer son ex-compagne. C'est ce qu'ils ont notamment confirmé donc hier, des éléments importants. Et pour maître Marca Gimaté, avocate d'une des deux parties civiles, c'est une preuve finale qu'Axel Bouchard voulait bel et bien, dit-elle, la mort de Savannah Torrenti.
Les dépositions viennent confirmer que l'absorption de substances ou d'alcool ne sont pas elles seules de nature à altérer le discernement de M. Bouchard, derrière lequel il se réfugie en quelque sorte sur l'intentionnalité. Et aujourd'hui, effectivement, sont les faits en eux-mêmes et c'est le caractère de M. Bouchard qui ont expliqué ce passage à l'acte. Il ne peut pas se retrancher derrière cette consommation de produits stupéfiants ou d'alcool. L'altération et l'abolition du discernement ont complètement été écartées par l'expert psychologue et l'expert psychiatre. Ils expliquent surtout que c'est bien ancré dans un coin de sa mémoire. Qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il a fait, mais qu'il est aujourd'hui peut-être difficile pour lui d'en faire état et de reconnaître d'avoir eu ce geste-là, cette strangulation qui a été terminale pour Savannah. Le docteur Coutenceau a clairement expliqué que ces faits-là, il ne pouvait pas les avoir complètement occultés et qu'ils étaient nécessairement là, sauf qu'il n'était pas prêt peut-être à en parler.
Et la seconde partie de la journée d'hier après les experts a également été marquée par d'autres témoignages, des témoignages poignants à la barre, témoignages empreints de dignité de part et d'autre, de la mère de Savannah, Mylène Jacquet, que vous avez pu entendre dans nos éditions de ce matin, mais aussi du père de l'accusé, Pascal Bouchard. Celui-ci a dit regretter avoir baissé les bras, dit-il, à un moment où son fils se renfermait sur lui-même. Aujourd'hui, alors que les témoignages et les pièces du dossier pèsent lourd sur son fils, il reste persuadé que ce dernier est réellement dans l'incapacité de dire à la barre comment il a attenté à la vie de Savannah Torrenti.
Il faut qu'il passe outre ce blocage. Ceci dit, je connais bien mon fils. Malheureusement, je ne le connais pas assez sur certaines choses. Mais je pense que la conjugaison de toutes ces drogues, de cet état émotif, cette dépression que je n'avais pas ressentie, fait qu'aussi, il se met peut-être une protection, mais je pense qu'il ne feint pas. Pour moi, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas accepter les choses. Je pense que c'est très, très difficile et je pense que c'est vraiment refoulé au fond de lui-même.
Est-ce que vous lui avez parlé par rapport à ça, au fait qu'il était bloqué?
Non, la seule chose que j'ai remarqué, et je l'ai dit dans l'émotion, c'est la dignité de la famille. famille à Savannah. Et moi, j'ai un grand, grand respect pour sa mère, parce que sa mère, elle ne cherche que la vérité. Sa mère n'attise pas la haine. Je vais leur faire passer un message. Nous aussi, on est tourmentés. Alors, on n'est pas les victimes comme eux. Mais ne croyez pas que notre famille, on n'a pas de compassion. La seule chose que je n'accepte pas, c'est les gens qui sont face à leur conscience et qui font des déclarations pour l'accabler. Je peux le comprendre quand on est dans la haine, dans la colère. Mais à un moment donné, on est face à sa conscience. Et moi, je suis face à ma conscience aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus dur que le tribunal.
Des témoignages recueillis par Olivier Castel. Et pour ce dernier jour de procès, les 6 jurés ont eu à entendre ce matin les premières plaidoiries des 4 avocats des parties civiles. Maître Dagi a notamment demandé aux jurés de retenir la circonstance aggravante qu'il était son compagnon au moment des faits. Viendront ensuite cet après-midi les plaidoiries des avocats de la défense avant le réquisitoire. Le verdict est attendu dans la soirée. Au chapitre justice encore, le procès hier devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio d'un promoteur immobilier et d'un homme fiché au grand banditisme. Anthony Perrino, chef d'entreprise qui compte parmi les poids lourds de l'économie insulaire, était jugé aux côtés de Pascal Port, considéré comme l'un des membres présumés de la bande du Petit Bar. Le premier était poursuivi pour abus de biens sociaux, le second, tout comme sa compagne, pour recel d'abus de biens sociaux et pour blanchiment de fraude fiscale. À l'origine de cette affaire, l'allocation par Anthony Perrino d'un luxueux appartement à Ajaccio à son ami Pascal Port, une location à un prix bien inférieur à celui du marché. Retour sur ce procès avec Maxime Beckmer.
1 500 euros par mois au lieu de 3 500 euros. Selon l'expertise jointe au dossier, un appartement dont la surface semble difficile à évaluer. On est passé comme par magie du T3 au T5, s'interroge le procureur Éric Bouillard. Et puis à côté de cela, il y a des dépenses suspectes chez Pascal Porry et sa compagne. L'achat d'une moto de grosse cylindrée, d'une Porsche et d'une dizaine de billets d'avion vers Paris. Le tout toujours réglé en espèces. Alors que durant les 3 années concernées par l'enquête, Pascal Porry ne justifie d'aucun revenu déclaré, hormis des dons de ses amis et de sa famille reçus lors de son mariage et lors du baptême de son fils. Difficile toutefois pour l'accusation de caractériser les faits. À la barre, Anthony Perrino a défendu son choix d'avoir fixé un prix de location, dit-il, légèrement inférieur au marché. Il assume aussi ses liens d'amitié avec certaines figures présumées du Petit Bar. Et pour les avocats de la défense, c'est cette amitié qui dérange. Pour Maître Garbarini, le ministère public ne doit pas condamner des hommes sur une réputation. Le parquet a requis 10 mois de prison ferme contre Pascal Porry, 10 mois avec sursis contre sa compagne et 8 mois avec sursis contre Anthony Perrino.
Et le jugement a été mis en délibéré dans cette affaire au vendredi 12 juillet. La collectivité de Corse poursuit son investissement en faveur de la promotion de la langue corse. Elle vient de signer 8 conventions pour la mise en place de Case da Lingua. Ce seront des structures polyvalentes gérées par des associations qui ont répondu à des appels à projets. L'objectif est de permettre une offre immersive, innovante et accessible à tout public. La collectivité a donc tranché, retenu 8 candidats, 3 entreprises et 5 associations sur l'ensemble du territoire. Elles vont proposer un accompagnement financier et une assistance technique sur la langue par le biais de l'immersion. C'est un principe pédagogique qui a fait ses preuves, affirme notamment Xavier Lugiani, le conseiller exécutif en charge de la langue corse.
Tout processus immersif mène au bilinguisme dans une société qui aspire justement à ce qu'on puisse promouvoir la langue du rêve vernaculaire. Ce qui se passe ailleurs en Europe est du même genre, du même processus. Il faut absolument donc promouvoir l'immersion pour arriver un jour à avoir une Corse organisation et du scolaire et bien sûr de la société. L'objectif de la GAZ, donc à travers ce dispositif du bien ou de l'immunibint, c'est surtout donc de pouvoir soutenir financièrement tout le tissu associatif, mais en relation quand même avec le scolaire, parce que nous avons besoin d'une projection extérieure. Jusqu'à présent, le pilier central du réacquiste ou linguiste, c'était l'école. Aujourd'hui, la société a besoin de parler corse. Donc la meilleure manière de pouvoir promouvoir ces pratiques, c'est justement d'aller à l'immersion.
C'est la fin de ce journal. Tout de suite, notre invité.